VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 20 décembre 2023. Journée électorale en République démocratique du Congo pour la présidentielle, les législatives, les régionales et les municipales. Les candidats de l'opposition ont déjà dénoncé des irrégularités après des retards dans l'ouverture de quelques bureaux de vote.
Dès 8h déjà, le bureau était déjà ouvert, bien qu'il n'y avait pas les gens qui votaient. Mais les agents des CENI étaient déjà là et les machines de même. Mais on n'avait pas encore commencé à voter.
Nous retrouverons nos envoyés spéciaux et correspondants disséminés sur le territoire congolais. En Guinée-Bissau, le premier ministre Geraldo João Martins a été limogé 8 jours après sa reconduction. Intense négociation pour une éventuelle nouvelle trêve à Gaza. Présidentielle américaine de 2024, Donald Trump exclut des primaires dans le Colorado pour son rôle dans l'assaut du Capitole. L'affaire va maintenant à la Cour suprême des États-Unis. Bonsoir, bienvenue. Des millions de Congolais se sont rendus aux urnes en RDC pour des élections générales à haut risque auxquelles le président sortant, Félix Tshisekedi, se représente face à une opposition morcelée qui a rapidement dénoncé des irrégularités. Les précisions de l'un de nos envoyés spéciaux, John Lindon.
Au quartier Kitambo ce matin, de nombreux électeurs sont arrivés dans le centre de vote bien avant l'heure d'ouverture prévue à 6 heures. Mais des heures plus tard, le bureau de vote n'avait toujours pas ouvert ses portes. Malgré ce retard, de nombreux électeurs rencontrés sur les lieux se réjouissent que le gouvernement et la CENI aient tenu la promesse d'organiser les élections. Ce scrutin a vu une forte participation de nombreux jeunes, dont certains votant pour la première fois. À l'Athénée de la Gombe, un autre bureau de vote n'a également pas pu ouvrir à temps, faute de machines qui seront finalement installées sous le regard attentif des observateurs de l'Union africaine. À la présidentielle à un seul tour, Félix Tshisekedi, 60 ans, est candidat à un second mandat face à une opposition morcelée. Plusieurs missions d'observation sont déployées sur le terrain. Celle des églises catholiques et protestantes est la plus grande. Ses animateurs ont promis un dépouillement parallèle pour la présidentielle. Les résultats de ces élections ne seront pas connus avant plusieurs jours. John Lindon, envoyé spécial de la VOA Afrique à Kinshasa.
En attendant donc les résultats provisoires, de nombreux citoyens congolais ont pu accomplir aujourd'hui le devoir des citoyens. L'un de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Eddy Sango, a recueilli les réactions de quelques électeurs.
Oui, je m'appelle M. Eric Mufuta.
Vous avez pu voter?
Oui.
Comment ça s'est passé?
Bon, dans notre centre, comme nous sommes là, je vois les choses se passent un peu bien. Principalement dans mon bureau de vote, là où j'ai voté, les choses se sont bien passées quand même.
Mais les bureaux ont ouvert en retard, j'étais ici?
Pas un léger retard, parce que dès 8 heures déjà, le bureau était déjà ouvert, bien qu'il n'y avait pas les gens qui votaient. Mais les agents des CENI étaient déjà là et les machines de même. Mais on n'avait pas encore commencé à voter.
Il y avait la tension ici le matin parce que les gens voulaient à tout prix. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact après avec ces retards et autres?
Bon, le retard aura toujours un impact vu que les gens viennent et trouvent un peu de difficulté pour accéder et rentrer à la maison. C'est là que je trouve que ça peut... C'est ça même le problème.
Les bûches Kamongo.
On vous voit ici dans ce centre de vote à Saint-Joseph, au centre-ville. Dites-nous, avez-vous pu voter?
Pas encore.
Combien de temps avez-vous passé déjà ici?
Presque 2 heures.
Pourquoi vous n'avez pas encore voté?
Nous sommes nombreux, il y a beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de monde, nous sommes venus voter, remplir notre droit, devoir civil.
Lydia, Kanou, Natacha.
Avez-vous pu voter?
Oui, oui, j'ai bien voté.
Et comment ça s'est passé?
Très bien passé. Je suis arrivée autour de 14 heures. Uh-huh. Je viens de le faire, donc j'ai patienté pendant 2 heures.
Uh-huh. Et au niveau de l'intérieur, la manipulation de machines et autres, tout s'est bien passé?
Oui, ça a été facile pour moi. Ça n'a posé aucun problème.
Tu avais ta carte, ça n'a pas posé problème?
J'avais une carte d'électeur et j'avais les numéros de tous mes candidats.
Vas-tu attendre, comme des appels ont été lancés à tout le monde, jusqu'au dépouillement, à la fermeture de bureau de vote.
Non, je n'ai pas le temps, je dois rentrer chez moi.
Madame, avez-vous pu voter?
Oui, j'ai pu voter.
C'était facile pour vous?
Très facile, parce que les gens qui sont à l'intérieur, les gens de la CENI, nous expliquent comment le faire. Donc, dès que je suis derrière l'urne, je peux facilement le faire.
Monsieur Michel Moubiala.
On vous trouve ici dans un bureau de vote. Avez-vous pu voter?
Oui, j'ai voté.
Comment ça s'est passé?
Bon, pour moi, ça s'est passé rapidement, vu que je suis suppléant. Donc, il a fallu que je me présente au bureau de vote. Et je pense que j'ai fait 5 minutes, parce que c'est une machine simple à comprendre.
Je m'appelle Monsieur Bamba, Antil Recherche.
Oui, comment ça s'est passé? Vous avez voté, non?
Je viens de voter, effectuer mon devoir civique. Accompli mon devoir civique, oui.
Comment ça s'est passé?
Ça s'est bien passé.
Journée électorale au Congo. Les principaux candidats de l'opposition après leur vote ont tous dénoncé le chaos et des irrégularités. Le président sortant, Félix Tshisekedi, a voté un peu plus tard. Le point avec Blanche Sanou.
Félix Tshisekedi, 60 ans, a voté dans un bureau de Kinshasa, souriant et acclamé par une foule de supporters hystériques. Il n'a pas fait de déclaration. Durant la campagne, il a demandé aux électeurs 5 ans de plus pour consolider les acquis. Martin Fayoulou a qualifié le scrutin de chaos après avoir voté dans un bureau de la Gombe, célèbre commune de Kinshasa.
Mais c'est un chaos total. Vous voyez, il n'y a pas d'organisation. Tout ce monde, jusqu'à 17h, même 18h, est-ce qu'ils peuvent voter? Et maintenant, ils se sont préparés pour tricher. Nous irons jusqu'au bout et j'ai dit au peuple congolais, pas de tricherie. Et si quelqu'un s'amuse à voler votre victoire, vous avez l'article 64 que la Constitution vous a donné. Et nous allons descendre dans la rue pour réclamer la victoire du peuple.
Peu après, toujours à Kinshasa, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a estimé que le processus est émaillé de beaucoup d'irrégularités logistiques qui ont empêché certains de voter à temps.
Dans ces bureaux de vote, tout s'est passé normalement, mais nous attendons à voir plus de nouvelles par rapport aux bureaux de vote qui sont dans les territoires où les nouvelles ne sont pas rassurantes. Mais avant ça, nous attendons d'abord en savoir plus avant de donner notre point de vue par rapport aux élections en général.
L'homme d'affaires Moïse Katumbi a quant à lui voté dans son fief de Lubumbashi, grande ville de la région minière du Katanga au sud-est.
Je suis venu voter et je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin. Donc on doit déplier bureau de vote par bureau de vote. Et on doit afficher les résultats. Le seul résultat que nous allons accepter, c'est le résultat qu'on doit afficher sur chaque bureau de vote.
Le vote pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales a commencé ce matin avec des retards et quelques dysfonctionnements selon les nombreux observateurs déployés dans le pays.
Nous ferons tout à l'heure le tour des provinces en RDC, mais ce vote aussi concerne également la diaspora congolaise installée dans 5 pays que sont la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Canada. Ici, à Washington, Jenny Niwa a suivi le vote au sein de l'ambassade de la République démocratique du Congo dans la capitale américaine. Jenny, bonjour. Ou bonsoir.
Bonjour Jean-Roger. Aujourd'hui, un moment historique pour la diaspora, puisqu'elle elle est autorisée à voter. Aujourd'hui, je me trouve dans l'ambassade. Le basement, en fait, le rez-de-chaussée, a servi de bureau de vote. Il fait assez froid, donc ils ont partagé une section pour l'attente et l'autre section, donc, pour voter.
Alors, ils ont dû faire le déplacement massivement. Est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain?
Tout à fait. On a eu une délégation de 2-3 personnes qui venaient du Wisconsin, mais sinon la plupart quand même viennent des alentours.
Alors, comment s'est déroulée l'opération concrètement? Est-ce que les machines ont été facilement manipulables? Est-ce qu'il y a des plaintes?
Alors, pas de plainte en ce qui concerne les machines. Les instructions sont notamment bien données par un président qui se trouve dans une des sections où on explique comment voter, comment la machine, comment on peut placer ses votes dans la machine grâce à la photo des présidents, vu que la diaspora ne peut uniquement voter pour les présidentielles. Et ensuite, ce ballot, il y a une table justement au centre de la pièce où les bulletins peuvent être mis dans une boîte transparente à côté des observateurs.
Alors, le problème sécuritaire se pose à RDC sur place. Est-ce qu'aux États-Unis, qui assure la sécurité des votants?
Alors, la sécurité, je dirais que ce n'est pas un problème. Vous savez que dans ce bureau, il y a uniquement 385 électeurs et le déroulement se fait vraiment au compte-gouttes, hein, lentement mais sûrement. Donc, la délégation est assez accueillante et puis elle permet donc aux voteurs de savoir comment ça se passe, à quel moment les votes doivent avoir lieu.
Alors, entre les électeurs présents ici dans la capitale américaine, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'antagonisme?
Alors, un petit hic, je dirais, de deux personnes qui se sont exprimées sur le fait qu'ils se sont enrôlés justement au Congo, mais arrivés ici, c'était impossible pour eux de pouvoir voter. Donc, apparemment, c'est la loi électorale, mais ils n'étaient pas au courant.
Ginny Niwa, depuis l'ambassade de la RDC ici à Washington, pour un compte-rendu du vote dans la capitale américaine. Merci Ginny.
Merci Roger.
Nous continuons avec la suite de ce journal, avec l'actualité, le reste de l'actualité. Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a limogé ce mercredi le premier ministre Geraldo João Martins, qu'il avait reconduit dans ses fonctions il y a 8 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale et de heurts qu'il avait qualifié de tentative de coup d'État. Monsieur Martins a aussitôt été remplacé par Rui Duarte Barros, nommé chef du gouvernement bissau-guinéen selon un décret présidentiel. L'Éthiopie et l'Égypte se rejettent la responsabilité de l'échec des négociations tripartites avec le Soudan au sujet du méga-barrage construit sur le Nil par Addis Abeba, dont un quatrième round s'est achevé mardi sur une nouvelle impasse. L'Égypte et le Soudan, situés en aval, considèrent ce projet comme une menace pour leur approvisionnement en eau. Ils ont demandé à plusieurs reprises à Addis Abeba de cesser de remplir jusqu'à ce qu'un accord soit conclu. Dans l'ouest de l'Ouganda, le nombre de personnes tuées lors d'une attaque menée par des rebelles alliés à l'État islamique est passé à 10, a déclaré ce mercredi le président Yoweri Museveni, ajoutant qu'il avait ordonné une frappe aérienne de représailles sur des cibles rebelles. Et le Qatar et l'Égypte mènent d'intenses négociations pour tenter d'arracher une nouvelle trêve humanitaire dans la bande de Gaza et la libération d'otages du Hamas en échange de prisonniers palestiniens. Et donc, nous retournons en RDC, en République démocratique du Congo, pour retrouver l'un de nos correspondants dans les régions. Bonsoir, Narval.
Bonsoir.
Donc, Narval Nabila qui nous rejoint depuis Lubumbashi en RDC. Comment s'est passé le vote aujourd'hui?
Bon, présentement, là où je vous parle, il y a des crépitements de balles depuis 30 minutes à un centre de vote à l'école Saint-François. Ça, c'est sur la route Kasenga, quartier Jolicite. Ça crépite depuis 30 minutes parce que on a fermé les bureaux de vote et que les machines n'avaient plus de batterie de charge avec des batteries tombées en panne. C'est depuis 30 minutes que ça crépite. Mais dans l'ensemble, bon, il y a eu quand même un engouement, mais c'est un problème organisationnel. Dans plusieurs centres où il y a eu des problèmes de machines, il y a jusque présent, à présentement là, et les gens continuent à chercher à voter, mais voilà, certains bureaux veulent fermer parce qu'il y a le temps et les machines causent problème. Et c'est dans cette ambiance que je suis à quelques 30 mètres ou 100 mètres du bureau du centre de vote Saint-François où ça crépite il y a depuis 30 minutes. On a même brûlé les pneus.
Merci Narval, on vous retrouve dans la prochaine édition. On va tout de suite à Bukavu en direct avec notre correspondant Ernest Mouero. Ernest, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, en moins de 15 secondes, le point de la situation à Bukavu.
Il faut dire que jusqu'à la minute où je fais cet appel, les votes se poursuivent dans plusieurs centres. Et l'engouement reste là. La CENI a de la peine, n'est-ce pas, à contenir les besoins des votes. Au courant de la journée, plusieurs personnes, certes, ont eu à voter. Mais par exemple, il y a des superviseurs de la CENI qui déplorent l'épuisement des batteries dans certains centres. Il y a des milliers, par exemple, à Moudaka, nous sommes là à quelques kilomètres de la ville de Bukavu, où il y a eu retard du déploiement des dispositifs électroniques de vote et des dysfonctionnements de certaines machines, ce qui fait que déjà au milieu de la journée, personne n'avait encore commencé les opérations de vote. C'est-à-dire que au niveau organisationnel, il s'est passé beaucoup de problèmes.
Merci à vous, Ernest Moïro. Nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions. Dans quelques instants, la page magazine. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les élections interviennent dans un contexte de conflit dans l'est du pays, dans le territoire de Beni. Certains centres de vote se sont sécurisés du moins par des groupes d'autodéfense armée. Plus d'informations avec Zanen Neti Zaidi.
À 6h du matin, plusieurs centres de vote de la ville et du territoire de Beni étaient opérationnels. D'autres ont commencé avec du retard. Ces élections se sont également déroulées dans des villages anciennement attaqués par les rebelles des forces démocratiques alliées et d'IF. Des forces de sécurité ont été déployées dans plusieurs centres pour rassurer les électeurs. D'autres centres ont été sécurisés par des groupes d'autodéfense armés. C'est le cas de l'école primaire de Kalunguta, à environ 27 km au sud de Beni. Des éléments habillés en civil et munis d'armes à feu sont déployés autour et à l'intérieur du centre. Selon Kassere Kafikiri, habitant de Kalunguta dans les territoires de Beni, ces élections marquent un pas important vers le retour de la paix dans l'est de la RDC.
Ici à l'Est, nous sommes fatigués et nous avons besoin de choisir la personne qui nous aidera à sortir de nos difficultés. Cette élection nous rassurera. La sécurité doit évoluer. Mettre fin à la sécurité, c'est trouver des autorités de vérité et c'est le moment de les trouver.
Kavuo Florence a perdu tous ses enfants lors des attaques des rebelles EDF.
Selon la vie que nous menons, j'ai décidé de venir participer au vote. Après ces élections, nous verrons comment la situation évolue. Je crois qu'après ces élections, le monde peut changer. Disons que la situation est précaire et j'appelle les autres à venir voter.
Pour sa part, Kakule Anissé s'est dit aussi rassuré par la présence des forces locales d'autodéfense, mais souhaite voir la présence de l'État dans sa région.
J'ai voté parce que c'est un droit civique. On est gardé par des éléments d'autodéfense, on n'a pas peur. Mais on aimerait que bientôt, ce soit nos forces qui sécurisent la région. C'est le retour de la paix dont nous avons besoin.
Quelques contraintes techniques ont été rapportées dans plusieurs centres de vote du pays. Les machines à voter n'ont pas marché et certains Congolais ont été omis de la liste d'électeurs. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
Selon la commission électorale, plus de 51% des électeurs enregistrés sont des femmes, contre moins de 49% pour les hommes. Certaines d'entre elles, dont la seule candidate à la présidentielle, Marie-Josée Ifoku, ont partagé leur réaction avec VOA Afrique après avoir voté. Compte rendu de Nathalie Barge.
Pour ces élections générales, de nombreuses femmes se sont présentées aux législatives nationales et provinciales. Gisèle Chilengi, cadre de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, candidate à la députation nationale, a voté dans la circonscription de Lwilou, dans la province de Lomami. Un groupe d'enfants l'a accompagnée jusqu'au bureau de vote d'Epekamba et au retour chez elle pour lui porter chance selon la tradition.
Certains bureaux ont ouvert et ont bien démarré. Certains bureaux refusaient carrément que les témoins soient là. Certains bureaux ont commencé en retard.
Selon Madame Chilengi, de nombreux électeurs étaient au rendez-vous en rang sous une pluie battante. Elle a déploré le comportement de certains candidats.
Il y a des candidats qui viennent pour payer, donner un peu d'argent aux électeurs pour acheter des voix. Donc c'est ce qui crée un peu beaucoup de soucis ici.
Chantal Faïda, cadre de la coalition des démocrates, CODE, s'est également présentée aux législatives nationales à Goma, dans le Nord Kivu. Le vote pour les quatre scrutins ne lui a pris que 5 minutes, mais elle a noté un problème quant à l'accréditation des observateurs.
Les centres Moussawat où j'étais, la plupart des témoins et observateurs étaient à l'extérieur en attente d'être admis dans les centres de vote.
Tout le monde n'a pas pu voter à cause de l'insécurité due aux nombreux groupes armés encore actifs dans l'est du pays.
Nous avons une pensée pieuse pour les compatriotes qui sont à Rutshuru et Masisi qui n'ont pas pu effectuer leur devoir civique.
La seule femme candidate à la présidentielle, Marie-Josée Ifoku, a été bloquée par des agents de l'ordre devant le bureau de vote de ma campagne à Kinshasa. Elle s'est alors rendue à Kitambo pour glisser son bulletin dans celui de l'école Kilimani.
Nous avons été votés dans un désordre organisé par la CENI. Je pense que c'était prévisible, nous l'avons prévenu. Nous avons compris que la CENI n'était pas prête. Bon, malheureusement, personne n'a prêté attention à cela. Et ce qui se passe, il fallait s'y attendre.
Les partis qui ont présenté au moins 50% de femmes sur leur liste électorale ont été exemptés de caution. Plusieurs ont gagné ce pari, dont l'Alliance ADC, dirigée par Adèle Kabena, classée parmi les regroupements politiques qui ont aligné un très grand nombre de candidates aux législatives nationales et provinciales.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, le gouvernement de transition a mis ses menaces à exécution et l'a suspendu les salaires du mois de décembre de quelques enseignants grévistes, des grands lycées et les membres du comité de crise ayant appelé à la grève. Une situation qui met en colère les enseignants victimes de cette décision. Ils n'entendent pas céder à la menace et l'intimidation. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Plus de 600 enseignants n'auront pas la possibilité de faire des cadeaux à leurs enfants en ces fêtes de Noël et de Nouvel An. Leurs salaires sont suspendus pour une grève qui, selon le gouvernement, est illégale. Mais pour beaucoup d'enseignants, cette décision, prise à la veille du réveillon et de la Saint-Sylvestre, est antisociale et dénote la mauvaise foi des autorités de transition.
Le gouvernement de ce pays a toujours tendance à confondre vitesse et précipitation. Dès lors que les textes sont en relecture, on ne peut pas imaginer suspendre abusivement le salaire des fonctionnaires. On considère cet acte comme un acte criminel social.
Moi, je dirais que c'est un sabotage. Le Premier ministre est en train de saboter la politique du président. Nous sommes en décembre, c'est la fête des enfants. On coupe le salaire des parents. Hein? Ah, c'est terrible, ça. Franchement, c'est interpeller le président directement. Il doit se lever et agir en tant que père de la nation.
Nous sommes gérés par des gens irresponsables. À chaque fois qu'ils sont en position de faiblesse, ils doivent toujours créer une situation pour retarder ces pays.
Contacté par VOA Afrique, le porte-parole de la primature ne souhaite pas se prononcer sur cette situation. Les autorités du ministère de l'Éducation nationale, quant à eux, restent indifférents aux cris des enseignants alors que les enfants sont à la maison depuis 2 mois. Pour certains enseignants, la suspension de salaire n'entame en rien leur détermination.
Dans une lutte, il y a aussi un prix à payer et nous nous sommes préparés pour ça et la grève va continuer. Parce qu'ils disent, si on arrive à couper les salaires de quelques enseignants des grands lycées, ça va amener ces grands lycées à reprendre. Et si ces grands lycées reprennent, c'est que tout le Tchad va reprendre aussi le cours. Mais là, ils ont tiré à terre.
Couper les salaires, c'est ce que Déby nous a déjà fait en 2017. Donc, ce n'est pas étrange pour nous.
Ce n'est même pas le gouvernement, c'est le bureau déchu là qui a fait comprendre au gouvernement que les enseignants, là, il suffit seulement de menacer leur salaire, ils vont reprendre.
Mais selon les sources proches du syndicat des enseignants du Tchad contesté par la base, c'est une démission de ces enseignants puisque ces débrayages ne respectent pas la législation du travail. La même source indique que cette crise est montée de toutes pièces par le gouvernement lui-même pour déstabiliser le CET.
Je pense que le gouvernement ne sait pas ce qu'il veut. Somme toute, il a créé des problèmes de telle sorte qu'il n'a plus d'interlocuteurs. Mais avec qui exactement le gouvernement veut discuter pour régler le problème. Le problème est là.
Barka Michel, secrétaire général du SINAPET, le syndicat national des professionnels de l'éducation du Tchad. Pour lui, le gouvernement a fait du pilotage à vue.
Il pense que la solution, c'est de punir les enseignants de cette manière-là, tout en oubliant que le salaire est sacré. Hein. Couper le salaire des gens et mettre ces gens en difficulté. Et en même temps, créer des troubles parmi les travailleurs. Et je crois que ça, c'est très dangereux. Le salaire, c'est pas l'enseignant seulement, c'est sa famille. La légitimité de la grève vient du fait que les gens se sont retrouvés sans salaire. Comment voulez-vous qu'ils réagissent?
Entre-temps, le comité de crise qualifie cet acte de cruel et inhumain et n'entend pas courber les chines. Il maintient son mot d'ordre de grève sèche et limitée sur toute l'étendue du territoire jusqu'à satisfaction totale de ses revendications. André Kodouma Djingar, Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Dans Washington Forum cette semaine, zoom sur les élections générales en RDC. Plus de 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire leur président, leurs députés nationaux et provinciaux ainsi que leurs conseillers communaux. Félix Tshisekedi prit en second mandat face à 18 autres candidats. Un scrutin crucial pour ce vaste pays dont la partie orientale est en proie à plusieurs conflits armés et qui se tient au moment où le gouvernement a annoncé un calendrier de retrait de la MONUSCO. Quel bilan tirer de la campagne et des élections? Quelle priorité pour le prochain quinquennat? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Ici aux États-Unis, la Cour suprême du Colorado a déclaré hier Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole. La décision qui ne s'applique qu'au scrutin primaire du Colorado a suscité une condamnation immédiate de la part des républicains de tous bords. Tous les regards sont maintenant tournés vers la Cour suprême américaine. Nani Talani s'est entretenue avec le professeur Mohamed Mboj, enseignant d'histoire à Manhattan College à New York.
Trump est en tête des sondages des votants républicains, des électeurs républicains. Donc, s'il ne peut pas être candidat, il va falloir trouver un autre candidat. Il va falloir se mobiliser pour cet autre candidat. Et il est évident que ce n'est pas facile à ce moment-ci pour certains donc de changer de cheval au milieu du guet, comme on dit. Mais d'autre façon aussi, le Parti républicain ayant supporté Donald Trump peut être accusé d'avoir supporté un insurrectionniste et donc ça va prêter le flanc à des attaques par les démocrates déclarant illégitime une grande partie des candidats républicains, surtout ceux qui ont soutenu Trump jusqu'au bout. Donc en fait, ce que ça signifie, c'est que Trump ne peut pas être élu, n'est pas éligible, et donc s'il n'est pas éligible, il ne peut pas être élu.
Même si l'inéligibilité ne concerne qu'un seul État?
Si ça concerne un seul État, on entre dans un vide juridique extraordinaire. Comment peut-on être élu en ayant été déclaré incompétent pour être candidat dans un État? Je crois que le cas ne s'est jamais produit. Il y a certainement des gens qui sont candidats dans certains États et qui ne le sont pas dans d'autres États. Ça, c'est possible. Mais néanmoins, ça fait ombre, ça fait tâche. Et techniquement, certainement, il peut toujours briguer si ça s'arrête au Colorado. Mais d'une façon générale, ça va complètement changer donc la perspective de la campagne électorale.
Un des porte-parole de Donald Trump assure que l'ex-président va contester la décision devant la Cour suprême américaine. Que risque-t-il de se passer là-bas?
La Cour suprême peut affirmer ou infirmer ce principe. Beaucoup de condamnés du 6 janvier ont été déclarés comme insurrectionnistes. Donc, il y a bien une base pour étendre donc ces jugements à Trump. Lui-même, il a été impliqué dans certains États pour avoir été celui qui a donné l'ordre de marcher sur le Capitole. Et donc, c'est un insurrectionniste. Mais ses jugements sont toujours dans le processus. Donc, mais si la Cour suprême décide que effectivement le 14e amendement peut s'appliquer ici en fonction des condamnations déjà avérées des partisans de Trump qui tous ont dit qu'ils sont allés assaillir le Capitole sous ses ordres, à ce moment-là, donc, ça en est fini de ses chances d'être candidat. Mais beaucoup d'observateurs pensent que la Cour suprême ne va pas aller aussi loin, surtout que individuellement, Trump lui-même n'a pas encore été jugé et condamné comme insurrectionniste. mais seulement, disons, ses supporters. Donc, il y a une sorte de fenêtre qui va permettre à la Cour suprême peut-être de dire qu'il faudra attendre que Trump soit lui-même condamné pour être un insurrectionniste, pour que ce jugement de la Cour suprême du Colorado puisse s'appliquer à lui sur l'ensemble des États-Unis.
Professeur Mohamed Mboj, enseignant d'histoire à Manhattan College à New York. Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.